7h pour un autre point sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.
Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, le rendez-vous, le même pour parler de sport. C'est Sporama sur la voie de l'Amérique. On va refaire l'actualité sportive sur le continent africain. On va accueillir nos consultants. Lui, il est à côté de moi dans ce studio. Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de la VOA Afrique.
On va saluer également à Casablanca au Maroc, Amine Birouk qui est aussi avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simbo Yamba Yamba nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Kinshasa à RDC. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, il est de retour dans l'Oyo, Amédine Si, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Fin de mandat pour le président de la CAF qui remet son fauteuil en jeu dans quelques semaines. À cet effet, Ahmad Ahmad a présenté le bilan des actions menées à la tête de la fêtière du foot africain. Le foot ivoirien en voie de sortie de crise. Tout porte à le croire au regard des auditions des acteurs de la crise électorale par la CAF et la FIFA. Et puis, à RDC, le championnat a démarré tambour battant avec en ligne de mire une lutte sans merci en vue de détrôner les corbeaux de Lubumbashi. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, l'élection du président de la Confédération africaine de football aura lieu en marge de l'Assemblée générale élective du 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. La succession d'Ahmad Ahmad est donc lancée sous son mandat. Des scandales se sont succédés avec comme point d'orgue son arrestation à Paris en juin 2019. L'ancien patron de la Fédération malgache de football a dans la foulée dressé son bilan au président de fédération affilié à la CAF ainsi qu'à la Fédération internationale de football. Dans un document de 4 pages intitulé « La transformation du football africain », il y détaille les réalisations des 4 dernières années. Ce bilan est accompagné d'un formulaire de soutien rempli et assigné par les présidents de fédération. Alors, Valdo, Ahmad Ahmad sait bien que tout n'a pas été rose.
Élisée, non seulement qu'il sait que tout n'a pas été rose afin de se prononcer s'il sera candidat ou pas, ça saute aux yeux que le Malgache veut jouer à la prudence, il ne veut pas être candidat d'une élection qu'il estime avoir perdue d'avance, d'où il fait accompagner son bilan d'un formulaire de soutien que les présidents des associations membres doivent remplir et signer. Décidément, cette façon de faire sans la peur de perdre avant même que ne se tienne cette Assemblée générale extraordinaire et élective. D'où l'obligation de savoir qui est avec lui et se rassurer de l'appréciation des associations des membres. J'ai comme l'impression qu'il s'y est très mal pris. Mieux à faire serait de demander aux associations membres de lui dresser son bilan et à lui d'apprécier sur base des éléments qu'il aura en sa possession. Il n'est un secret pour personne que Ahmad Ahmad et son comité ont tâtonné comme pas possible face à un candidat de taille. Il est évident que le Malgache aura difficile à se faire réélire tellement que ses faiblesses ou les faiblesses de sa gestion n'ont laissé personne indifférent jusqu'à faire réagir la FIFA.
Amine Birouk, le président de la CAF a beaucoup péché par trop de mauvaises décisions. Décisions qui d'ailleurs posent problème.
Le moins que l'on puisse dire, Élisée, c'est que le président a beaucoup promis et peu tenu. En tout cas, les intentions étaient là, mais les actes n'ont pas été très concluants. On a eu l'impression que le président de la CAF a fait des réformes, mais souvent par réaction. Par exemple, la finale de la Champions League et de la Coupe de la CAF sur un terrain neutre. Si on n'avait pas eu l'affaire Rades, on n'aurait pas eu cette réforme. Tout ce qui concerne la démocratie dans la CAF, ou la transparence, a été l'objet de pressions faites de l'extérieur. Autant dire qu'aujourd'hui, il a un bilan avec un actif et un passif. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais également de très nombreuses décisions erronées. Et aujourd'hui, on aura bien évidemment un concurrent ou un candidat qui va devoir rendre des comptes, présenter un bilan et surtout essayer d'expliquer le pourquoi et le comment de certaines de ces décisions.
Justement, Amine, il vient même de nommer un directeur de la communication du nom d'Alessandre Sioui. Mauvais timing ou désir de restructuration de la fêtière du foot africain?
Je ne parlerai pas de mauvais timing. Il y a toujours un besoin de restructurer la Confédération africaine de football. Un des maillons faibles pendant ces 4 années a été la communication du président. Aujourd'hui, il a besoin d'un professionnel pour pouvoir non seulement soigner sa communication, mais également mettre en valeur ce qui se fait au niveau de la Confédération africaine de football. On n'est pas encore en période électorale, on n'est même pas en période préélectorale. Donc, je ne parlerai pas de mauvais timing. On a besoin de professionnels, on a besoin de continuité dans l'institution. Et je suppose qu'Alexandre Civet, qui vient de prendre ses fonctions, essaiera de faire de son mieux pour valoriser l'image de la Confédération africaine de football. Il est au service du football africain avant tout. Et puis après, s'il est le, pendant la période électorale, qu'il se mette à l'écart ou qu'il se mette en réserve, entre guillemets, de la République, il le fera certainement.
Ahmedine Sy, finalement, on voit bien que remplacer Issa Hayatou n'est pas sinécure.
Tout à fait, Élisée, l'élection du président de la CAF prévue le 12 mars à Rabat ne sera pas facile pour le malgache Ahmad Ahmad. Comme vous l'avez dit, il a un programme avec la transformation du football africain. Mais vous avez raison de dire, Élisée, que remplacer Hayatou n'est pas du tout chose aisée puisque Ahmad Ahmad l'apprend à ses dépens. Puisque depuis qu'il est à la tête de la Confédération africaine de football, il n'y a que des problèmes. On note des cafouillages partout. Mais on a également vu que Ahmad Ahmad était en conflit avec beaucoup de gens et puis il n'est pas tellement clean comme on le pensait puisqu'il est mêlé à des affaires très louches. D'ailleurs, il a été interpellé en France, donc cela prouve que Ahmad Ahmad n'est pas l'homme qu'on pensait et qu'il était. Donc ce sera difficile pour Ahmad Ahmad de convaincre les dirigeants du football africain pour qu'il soit réélu. En tout cas, je donne ma langue au chat, Élisée.
Lawal, il y a des choses qui ont certainement marché et d'autres qui l'ont été moins.
Élisée, on ne peut pas dire que le bilan de Ahmad Ahmad est catastrophique ou très bien. Il est mi-figue, mi-raisin. D'aucuns diront que c'est catastrophique, d'autres trouveront qu'il y a eu des choses qui ont marché. Et quand on fait le point, il y a eu beaucoup plus de choses qui n'ont pas véritablement bien marché que de choses qui ont marché. Les choses qui ont marché, on pourrait peut-être dire, par exemple, passer de 24 équipes au lieu de 16 pour la CAN, c'est une belle chose parce que ça permet à d'autres équipes africaines d'être sur
de
la...
De qualifier pour une CAN.
Parce que désormais, on aura deux équipes par groupe. C'est déjà bien. L'autre chose qui a certainement bien marché, c'est le décalage. Moi, je trouve le décalage de la CAN de janvier à juin. Parce qu'en janvier, par exemple, il y a des clubs qui hésitent, qui refusent parfois même
de libérer les joueurs.
Et ça fait que on n'a pas vraiment les joueurs qu'il faut pour la CAN. Et ça a terni certainement l'image de la CAN. Ce qui n'a pas marché du tout, à mon humble avis, c'est cette façon de prendre le foot féminin, où la CAF a complètement loupé, raté le coach en ne donnant pas, en n'étant pas d'importance au foot.
Pendant que la FIFA est en train de faire la promotion.
Pendant que la FIFA fait la promotion du foot féminin. Et il faudra que Ahmad Ahmad fasse peut-être amende honorable, reconnaisse qu'il a commis assez d'erreurs et reconnaisse également qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche. On dirait qu'il n'était peut-être pas préparé pour ce remplacement-là.
Pour l'heure, il n'a pas indiqué s'il briguerait un deuxième mandat et avait même souligné lors d'une conférence de presse être encore en phase de réflexion, ce qui est logique. Et pour l'instant, personne ne s'est ouvertement déclaré, même si Amadou Pinnick, ancien premier vice-président de la CAF, actuel président de la Fédération Nigériane de Football, a laissé entendre qu'il n'écarte pas l'idée d'aller défier le Magache au Maroc. Rappelons que la date limite pour le dépôt des candidatures est fixée pour le 12 novembre prochain. Bright Abiola, correspondant de RFI à Lagos et très proche de Pinnick, nous livre quelques indiscrétions.
C'est vrai, le président de la Fédération Nigériane de Football il veut se présenter, il veut candidater au poste de président de la Confédération Africaine de Football. Ben écoutez, c'est son choix, il est libre, c'est un citoyen nigérian et il est libre d'aller candidater où il veut. Maintenant, ses chances, alors là, ça va être un peu difficile pour lui. Parce que, un, il ne parle pas la langue de Molay, il ne parle pas la langue française. Il faudra donc aller, il faudra prendre son bâton de pèlerin, aller convaincre les francophones, parce qu'ils sont nombreux au niveau de la CAF. Ça ne va pas être, en tout cas, du tout repos pour lui. Et puis, il faudra qu'il y ait son programme, il faudra qu'il y ait un programme alléchant. C'est vrai, même si le mandat de Ahmad est mitigé, mais il reste en pole position, il reste pour l'instant le favori. Hein. Et là, pour le détrôner, il faudra aller vraiment au charbon.
Ahmedine, la langue de Molière pourra-t-elle être un handicap pour le principal opposant d'Ahmad Ahmad? Pinnick, on le rappelle, a été un grand soutien pour le malgache.
Non, Élisée, je ne pense pas
Au contraire, il s'agira quand même de présenter un bon programme puisque, comme Ahmad Ahmad, depuis qu'il est là, il n'a pas su convaincre les gens. Il faudra quand même ficeler un bon programme, convaincre les dirigeants du football africain pour pouvoir s'en sortir. Moi, je pense qu'avec un bon programme, il pourra s'en sortir car le magistère d'Ahmad Ahmad a été marqué par des cafouillages, des problèmes partout. En tout cas, il a montré qu'il n'était pas à la hauteur. Donc, je pense que son challenger peut vraiment prendre... surfer sur cette bague pour pouvoir quand même se présenter et pourquoi pas le battre lors de l'élection, créer la surprise comme Ahmad Ahmad l'avait fait avec Issa et tout Élysée.
Valdo, Ahmad Ahmad aurait aimé avoir un autre candidat que Pinnick qui a joué un grand rôle dans son élection à la tête de la CAF.
Tout à fait, Élysée, et surtout qu'il connaît de quelle manière l'homme est arrivé à la tête de la CAF et ce qu'il a aujourd'hui comme forces et faiblesses dans sa gestion. Amajou aura apprécié les bilans du président de la CAF et lui retourner les documents. Méthode qui, je pense, doit lui mettre la puce à l'oreille sur ce qu'est en train de craindre Ahmad Ahmad avant même qu'il ne se prononce s'il sera candidat ou pas aux prochaines élections de la CAF. Je pense que les probables candidats ont l'obligation de trouver dans ce qu'est en train de faire les Malgaches l'occasion de prendre position et s'est prononcé sur sa candidature. Le Nigérian, ancien vice-président de la CAF, ne sera pas un novice à la gestion du football sur les continents. Il est déjà bien rodé et suffisamment d'ailleurs afin de gérer la Confédération africaine de football. Amajou, c'est le profil du candidat qu'Ahmad Ahmad n'aimerait pas avoir comme challenger. À plus de 5 mois de la tenue des élections, les deux hommes ont, je pense, le temps de mûrir leurs idées avant de se prononcer.
Amine, on se pose la question aujourd'hui de savoir ce qui s'est passé entre les deux hommes qui ont renversé Issa Hayatou.
On peut parler d'alliance objective pendant les années qui ont suivi, je dirais, l'élection d'Ahmed Ahmed. Pinnick a été un des hommes de confiance du candidat malgache, puis du président de la Confédération africaine de football. Maintenant, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait divergence d'opinion. Tout d'abord, Pinnick a des soucis avec la justice de son pays. On se rappelle aussi de la division qui a toujours régné en Afrique entre francophones et anglophones. Il y a aujourd'hui une lutte d'influence entre le camp pro-marocain et le camp pro-sud-africain. Et comme Danny Jordan est aujourd'hui vice-président de la CAF, il est tenu un devoir de réserve. Donc c'est à l'ancien premier vice-président, qui n'est plus que membre du comité exécutif, de mener cette fronde. Maintenant, a-t-il un programme ? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre lui et Ahmed Ahmed s'il se présente contre le candidat sortant? C'est une question que je me pose légitimement.
Lawal, c'est un point de non-retour entre Ahmad et Pinnick. Ce dernier a même fustigé la tenue de l'Assemblée générale élective de 2021 au Maroc.
Oui, Élysée, c'est tout à fait courant. Et quand on élisait le 16 mars 2017 Ahmad Ahmad, il y avait une situation qu'il fallait régler. Et pour régler cette situation, il fallait des alliances de circonstances.
Voilà.
C'est comme en politique. Et Issa Hayatou était la bête à abattre. Et tous s'étaient unis autour
d'Ahmad
Ahmad pour renverser Issa Hayatou. Mais aujourd'hui, et quand on voit un peu comment la CAF a été gérée pendant ces 3 dernières années, on a bien senti que il était légitime pour les uns et les autres de recevoir en retour les prébendes de ce qu'il leur avait été promis pour le soutien à Ahmad Ahmad. Donc, si aujourd'hui Pinnick prend la décision, la résolution d'être candidat,
Pinnick a dit qu'il y a des choses qui ne vont pas fondamentalement.
Oui, oui. Et il faut dire que quel que soit le président qui viendra à la tête de la CAF, il y aura toujours ces contradictions internes parce que c'est un jeu d'intérêt.
Pinnick qui parle de crédibilité, d'intégrité introuvable aujourd'hui au niveau de la CAF.
Et si il le dit, c'est parce qu'il en sait quelque chose. Il est important qu'on puisse assainir la maison. Et aujourd'hui, le fait que la FIFA commandite un audit pour voir clair dans la gestion de la CAF, j'ai dit, il y a un problème.
Il y a un problème.
Et c'est tout à fait normal que ceux qui ont été les soutiens d'Ahmad Ahmad puissent véritablement aujourd'hui vouloir le détrôner. Mais la bataille va être rude, assez serrée entre les différents protagonistes de cette nouvelle élection à la CAF.
Ce qui est sûr, d'autres coalitions naîtront d'ici peu de temps. Direction la Côte d'Ivoire. La FIFA et la CAF ont auditionné la semaine écoulée à Abidjan les membres de la commission électorale, le président de la FIF, les candidats et différents acteurs de la crise. A noter que la FIFA avait suspendu le 27 août dernier le processus électoral après le rejet du dossier de Didier Drogba.
Celui-ci avait vu sa candidature invalidée parce qu'il ne disposait pas de parrainage suffisant selon la commission. Lawal, de quoi avaient peur les responsables de la FIFA pour en arriver à cet extrême?
Oh, Élisée, c'est tout à fait visible, compréhensible. On savait que Didier Drogba avait une certaine popularité et le mettre sur la ligne de départ de cette élection serait carrément se faire harakiri pour les responsables de la FIFA, notamment le candidat annoncé du président sortant. Donc il fallait par tous les moyens bloquer la candidature de Drogba pour donner une certaine chance donc au candidat soutenu par le président de la FIFA.
À cette allure, il risque d'avoir un comité de normalisation. La FIFA risque d'installer un comité d'organisation.
Et si la FIFA installe un comité de normalisation, vous convenez que on va normaliser les choses, on va donner beaucoup plus de chances à Drogba de s'installer davantage. Et c'est une erreur stratégique que les responsables de la commission avaient commise
en voulant écarter
à tout prix Didier Drogba. Aujourd'hui, on fait de lui le candidat qui faisait peur. Et ça lui donne plus de crédibilité aujourd'hui aux yeux des Ivoiriens. On avait reproché à Drogba d'être pas très impliqué dans la gestion de foot locale. Aujourd'hui, on lui donne les moyens, on lui donne les armes pour abattre tous ceux qui ont contribué à la déconfiture du football ivoirien.
Valdo, est-ce une nouvelle chance pour Drogba?
Nouvelle chance, vous dites, Élisée, pour Didier Drogba? Oui, si et seulement si la FIFA et la CAF lui ont justement trouvé les mécanismes pour qu'il soit candidat à ces élections de la Fédération Ivoirienne de Football. Sinon, n'ayant pas disposé suffisamment des parrainages, comment est-ce que cela sera possible? C'est tout le suspense qui nourrit ces processus électoraux de la Fédération Ivoirienne de Football, dont l'issue tire déjà en longueur et le football ivoirien risque d'en payer les frais. Le plus important reste la reprise de ces processus après les auditions de la CAF et de la FIFA, des membres de la commission. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire doit interpeller les anciens footballeurs qui aspirent un jour à être candidats aux élections des fédérations de leurs pays respectifs pour nous éviter les forcings et l'influence de la CAF ou encore de la FIFA, comme c'est le cas pour Didier Drogba. Bref, si les organisateurs de ces élections s'en tiennent au texte de la Fédération Ivoirienne de Football sur les élections, ça sera la confirmation que la candidature de Didier Drogba ne sera pas retenue.
Ahmedine, cette situation ne ferait-elle pas jurisprudence?
C'est déjà une jurisprudence, Élisée, car c'est pour la première fois que la CAF et la FIFA ont décidé d'auditionner des membres d'une commission électorale d'une fédération. Cela veut dire ce que cela veut dire. Pour moi, c'est un signal très fort, hein, que ce soit la FIFA et la CAF, ils ont décidé quand même de regarder ce qui se passe dans les fédérations. C'est une bonne chose puisque les fédérations doivent être bien gérées. On ne doit plus faire n'importe quoi puisque le football est devenu très important et les hommes qui dirigent le football doivent être quand même élus normalement. Je pense que c'est une très très bonne chose et que ce soit la CAF et la FIFA, ils feront tout pour continuer à faire ça dans toutes les fédérations qui auront des problèmes, Élisée.
Amine, la reprise du processus électoral est attendue afin que le championnat reprenne, comme l'a souhaité le secrétaire général de la FIFA, Sam Etiassé, dans une correspondance adressée à la FIFA.
Nous attendons tous en Afrique avec impatience le retour du processus électoral. On attend tous qu'il y ait un président à la tête du football ivoirien, qu'il y ait un nouveau capitaine qui puisse mener ce bateau, qui puisse entamer des réformes susceptibles de mener le football ivoirien, le championnat ivoirien, vers une professionnalisation, que les résultats puissent s'améliorer et puis qu'il y ait de la crédibilité et de la transparence. Aujourd'hui, ce travail conjoint entre la CAF et la FIFA est susceptible de redonner de la crédibilité au football ivoirien. Et puis vivement que le processus reprenne et que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Il y va de l'intérêt du football en Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier.
En attendant que le ciel du ballon rond ne s'éclaircisse au pays des éléphants, un match de gala a été disputé le samedi entre la SEC Mimosa et l'Africa Sport. Le score du match, 2-0 pour les Mimos. un match qui inaugurait ainsi le stade olympique d'Ebempe, l'un des stades qui va abriter des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 que va organiser la Côte d'Ivoire. Il faut dire que certaines fédérations pensent déjà à la reprise de leur championnat. Le Niger a choisi la date du 23 octobre prochain. Au Cameroun, le gouvernement vient de lever la suspension des compétitions sportives. La date de la reprise du championnat est attendue. Et puis, au Sénégal, on est toujours à l'étape de la réflexion. On écoute le ministre des Sports, Mataba, qui a participé à une séance d'analyse et de proposition pour la reprise des activités sportives.
Quand on prenait la décision d'arrêter, c'était une consultation, une rencontre de prise de décision. Quand on envisage de reprendre, il faut pas être surpris. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'appeler les acteurs, les présidents de fédérations et groupements sportifs, les partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, la presse sportive, tous les acteurs. Mais je peux vous assurer que nous allons vers la reprise des activités sportives parce qu'en réalité, nous avons bon espoir. Le Sénégal qui est classé deuxième dans la prise en charge de cette question qui est extrêmement difficile, nous pouvons espérer qu'avec les gestes barrières, avec certaines mesures, nous devons pouvoir faire face et recommencer nos activités.
Pendant qu'on réfléchit au Sénégal, on est à un cran au-dessus en RDC. Le championnat a repris par un choc des ambitieux. Alors Valdo, l'un des faits marquants de cette saison, c'est l'interdiction de recrutement au Daring Club Motéba Pembe par la FIFA. De quoi s'agit-il ?
Élisée, c'est une affaire de non-respect du contrat qui est à la base de cette sanction de la FIFA. Le joueur brésilien Renan Augusto avait saisi l'instance fêtière du football mondial contre le DSMP pour non-respect et résiliation de manière unilatérale de son contrat. Arrivé au DSMP en 2016 pour 3 saisons, Renan Augusto a vu le club de la capitale Kinshasa interrompre son contrat en 2017 alors que ces derniers couraient jusqu'en 2019. L'affaire n'ayant pas trouvé une issue côté DSMP malgré la médiation de la FECOFA a sorti d'un deadline de la FIFA, voilà, qui accouche de cette sanction que la FECOFA vient d'entériner jusqu'au paiement des 64 000 $ plus 7 500 francs suisses. L'un des représentants de la RDC en Coupe de la Confédération est jusque-là interdit d'enregistrer ses joueurs tant en international qu'en national, situation qui ne compromet nullement sa participation aux compétitions de la CAF et de la LINAFOOT d'ailleurs. Samedi dernier, les DSMP avaient fait ses débuts en national, accrochés 2 buts partout par les Racing Club de Kinshasa.
Amine Birouk, chez vous, la lutte pour le titre de champion est palpitante. Ça se joue finalement entre 3 clubs.
Ça devrait se jouer entre 3 clubs ou entre 2, puisqu'il y a le verdict de la rencontre entre le Raja de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane. Mais logiquement, ces 3 clubs sont de sérieux aspirants au titre jusqu'à la dernière journée. Le calendrier pourrait favoriser le tenant du titre, même s'il est aujourd'hui à 1 point du leader. Il a des adversaires un peu plus commodes, tandis que le Raja, certainement le calendrier le plus ardu. Et il ne faut pas oublier que nous avons également, à l'autre bout, une compétition africaine pour tous ces clubs. Donc il va falloir ne pas laisser trop de force dans la bataille. Aujourd'hui, le football marocain est performant en Afrique et le championnat marocain, en termes de suspense et de concurrence, fait partie de ces championnats en Afrique les plus relevés. Et puis, on sait que le Raja de Casablanca, le Wydad, la Renaissance sportive de Berkane sont des équipes qui sont rodées. Elles possèdent le capital expérience, le talent, pour que le suspense puisse durer jusqu'à la 30e et dernière journée.
Handball pour finir. La Confédération africaine de la discipline a organisé par vidéoconférence une séance d'information à l'endroit des journalistes sportifs. 2 jours de travail qui ont aussi permis à l'instance continentale dirigée par le Béninois Aremu Manzuru de livrer le calendrier de ses compétitions. Lawal, il le fallait afin de permettre à la presse d'être informée de ce qui se fait à la CAB.
Oui, c'est une première et il faut féliciter les autorités de la Confédération africaine de handball parce que informer les journalistes de ce qui se fait, c'est essentiel et il fallait le faire pour que l'on sache ce qui se fait et pour qu'on, parce que quand on a l'information, celui qui a l'information, il a le pouvoir. Et si les membres de la Confédération ont estimé qu'il fallait informer les journalistes, c'était tout à fait normal parce qu'il faut qu'on sache ce qui se prépare, ce qui se fait pour la promotion du handball. Parce qu'on ne va pas parler que du foot. Les journalistes sont suffisamment informés par rapport aux activités du football. Donc il fallait que le président Manzourou prenne exemple sur le foot pour faire pareil. Et c'est déjà bien. On les encourage à continuer dans ce sens-là pour nous permettre d'être au fait de l'information au niveau du handball africain.
Le nouveau calendrier des compétitions a été même présenté au cours de ce séminaire en ligne. Il prend en compte les compétitions des clubs, la compétition des jeunes et la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Il prévoit aussi un stage des entraîneurs. Sporama, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. On se donne rendez-vous lundi prochain pour le même plaisir. Au revoir.